RFI, il est 23h30 à Paris et Alger, 22h30 en temps universel.
Afrique Soir.
Votre édition est présentée par Zéphirin Quadio. Bonsoir Zéphirin.
Bonsoir Juliette, bonsoir à toutes et à tous. À la une de cette demi-heure d'actualité africaine, retour sur l'interpellation samedi à Alger de l'écrivain franco-algérien Boualem Sansal. Les raisons de cette arrestation non confirmées officiellement restent pour l'instant inconnues. Nous irons ensuite au Mali, où un militaire succède à un civil à la primature, le général Abdoulaye Maïga, nommé Premier ministre en remplacement de Choguel Maïga, limogé la veille. Et puis les législatives anticipées au Sénégal, le raz-de-marée du parti PASTEF, confirmé par les résultats officiels publiés ce jeudi par la commission électorale du recensement des votes. Nous irons aussi au Niger pour parler de l'avenir de la Somaïr, la société des mines de l'Aïr, détenue à 63% par Orano. C'est le dernier site d'uranium exploité au Niger par le groupe français. Et puis première arrestation en République démocratique du Congo après les actes de vandalisme contre le mausolée de Patrice Lumumba. Les autorités parlent de 6 personnes, 2 autres personnes seraient toujours recherchées. En Algérie, l'écrivain Boualem Sansal est donc depuis près d'une semaine maintenant en garde à vue dans les locaux des services de sécurité à Alger. Il attend d'être présenté devant le procureur de la République, Faisal Netaoui. Boualem Sansal risque une peine de prison pour atteinte à l'unité nationale.
Boualem Sansal, qui revient souvent en Algérie sans être inquiété par les autorités, a été interpellé à Dalbaïda, à l'est d'Alger, quelques minutes après avoir quitté l'aéroport international Houari Boumedienne le samedi 16 novembre 2024. D'après des sources informées, des agents de sécurité en civil l'ont fait sortir de sa voiture et lui ont demandé de les suivre. Après la période d'interrogatoire, qui peut durer plusieurs jours, l'auteur franco-algérien devrait être présenté devant le procureur de la République d'Alger ou de Boumerdès, ville située à une cinquantaine de kilomètres de la capitale où réside Boualem Sansal. L'interpellation de l'écrivain n'a pas encore été annoncée officiellement, mais selon les mêmes sources, la poursuite pénale engagée contre lui serait liée à de récentes déclarations faites à un média français sur, je cite, l'appartenance de certaines villes de l'ouest algérien comme Oran et Tlemcen, au Maroc. Boualem Sansal pourrait être poursuivi pour, entre autres, atteinte à l'unité nationale et à l'intégrité territoriale du pays et incitation à la division du pays, des chefs d'inculpation passibles de peine de prison selon le code pénal algérien. Faisal Metaoui, Alger, RFI.
Au Mali, le général Abdoulaye Maïga a donc été nommé nouveau premier ministre de la transition. Il conserve par ailleurs la charge de l'administration territoriale qu'il dirigeait dans la précédente équipe. Nommé ce jeudi à la mi-journée, la composition de son gouvernement a été présentée presque dans la foulée, dans l'après-midi. Aucun changement majeur. Le général Sadio Camara reste à la défense. Le général Ismaël Ouagué à la réconciliation. Abdoulaye Diop est confirmé aux affaires étrangères et à Louceni Sanou à l'économie. La principale nouveauté, David Baché, c'est donc bel et bien l'arrivée du général Abdoulaye Maïga à la primature.
C'est un militaire qui remplace un civil à la primature. Son arrivée n'a par ailleurs rien de surprenant. Abdoulaye Maïga avait déjà assuré l'intérim à ce poste lors des problèmes de santé de Choguel Maïga. S'il ne fait pas partie des 5 militaires auteurs du coup d'État de 2020, il a rapidement su gagner leur confiance et s'imposer en pilier du régime de transition. Ancien porte-parole du gouvernement et ministre d'État en charge de l'administration territoriale, un département stratégique pour l'organisation des élections dont il conserve la charge au sein de son nouveau gouvernement. Abdoulaye Maïga est d'ailleurs passé du grade de colonel à celui de général en même temps qu'Assimi Goïta et que les autres militaires putschistes en octobre. Depuis plus de 4 ans, les Maliens ont appris à connaître son ton martial et ses phrases choc répétées à 3 reprises. Une marque de style à laquelle s'est ajoutée l'expression « à bon entendeur, tant pis » récemment prononcée à la tribune des Nations Unies lors d'une diatribe contre l'Algérie. Interlocuteur privilégié des partis politiques, souvent loué pour sa capacité d'écoute, le général Abdoulaye Maïga a reconduit dans sa nouvelle équipe tous les poids lourds de la transition. Sans surprise, puisqu'il s'agissait pour les militaires au pouvoir de poursuivre leur action, en dépit des attaques de l'ancien Premier ministre Choguel Maïga et de ses demandes de clarification.
David Baché, puis au Sénégal, c'est désormais officiel. Le parti au pouvoir, le PASTEF, remporte haut la main la législative anticipée du 17 novembre. Les résultats officiels ont été publiés en début de soirée par la Commission nationale de recensement des votes. Léa Lisa Westerhoff, des résultats qui confirment le raz-de-marée du PASTEF.
Oui, Zéphirin, le parti d'Ousmane Sonko emporte 130 sièges sur les 165 qui composent le Parlement. On est bien au-delà de la majorité qualifiée des 3/5 qu'espérait décrocher le PASTEF. Le parti des Patriotes contrôle désormais 78% du Parlement. Il l'a emporté dans 40 des 46 départements que compte le pays et 7 des 8 circonscriptions de la diaspora. Une victoire sans appel donc et inédite depuis 1988 et la victoire du Parti Socialiste du président Abdou Diouf. Jamais depuis, un parti n'a fait le choix d'aller à des législatives seul, sans l'aide d'une coalition comme le PASTEF aujourd'hui. Face à cette razzia, comme l'a qualifié la presse sénégalaise, la coalition Takoualou, emmenée par l'ancien président Macky Sall, devient la première force de l'opposition, avec 16 sièges seulement. Pour comparaison, la coalition de Macky Sall en avait 83 dans la législature précédente. En troisième position, l'ancien premier ministre Amadou Ba, avec 7 sièges. Et enfin, la coalition du maire de Dakar, Barthélémy Diaz, décroche 3 sièges.
Léa Lisa Westerhoff, et puis près d'un million d'Ivoiriens ont demandé à s'inscrire pour la première fois sur la liste électorale en vue de la présidentielle de 2025, selon un bilan provisoire annoncé ce jeudi par la commission électorale après la clôture des bureaux d'enrôlement. La commission électorale indépendante, la CEI, a procédé du 19 octobre au 17 novembre à la révision de la liste électorale où elle attendait l'inscription de quelque 4 500 000 primo-votants. Selon un responsable de la CEI, la liste provisoire devrait être affichée dans tous les lieux de vote à partir du mois de mars prochain. On en vient au dossier d'Afrique Soir qui nous emmène dans le nord du Niger avec cette question. Quel avenir pour la Somaïr, la société des mines de l'Aïr qui emploie 750 personnes dans la zone d'Arlit est détenue à 63% par Orano et à 36% par la société d'État nigérienne, la Sopamine. C'est le dernier site d'uranium exploité au Niger par le groupe français. Le permis d'exploitation du site d'Imouraren lui a été effectivement retiré en juin dernier, dans un contexte de tension entre le Niger et la France depuis le coup d'État de juillet 2023. Niamey affiche aussi sa volonté de souveraineté sur ses ressources minières. La Somaïr connaît actuellement des difficultés financières, affirme Orano, qui a donc décidé de suspendre les dépenses liées à la production. Les précisions de Magali Lagrange.
La suspension des dépenses liées aux activités d'extraction et de traitement du minerai n'est que provisoire, tempère Orano, en attendant que les conditions soient réunies pour exporter la production. Actuellement, plus de 1000 tonnes de concentrés d'uranium sont bloquées, selon le groupe français, qui affirme donner la priorité au maintien des salaires. Pour Gilles Récochet, directeur responsabilité, engagement et communication d'Orano Mining, la situation de la Somaïr est préoccupante.
Depuis 16 mois, la Somaïr est empêchée de commercialiser sa production du fait de la fermeture côté Niger de la frontière avec le Bénin. Et aujourd'hui, se trouve dans une situation vraiment très dégradée.
La décision de suspension provisoire a été votée en conseil d'administration la semaine dernière. Les représentants de la Sopamine ont quitté la salle au moment du vote, fait remarquer Orano. De leur côté, les autorités nigériennes contestaient déjà en début de mois cette décision. Gilles Récochet.
Il n'y a pas de dialogue. Nous, ce que l'on souhaite, c'est continuer à produire. C'est une longue histoire et on ne souhaite pas qu'elle se termine de cette façon. On invite la partie nigérienne à revenir à la table de la discussion et d'entendre que la situation financière de Somaïr ne lui permet pas de continuer à fonctionner en production.
Depuis l'arrivée des nouvelles autorités au pouvoir, le Niger affiche sa volonté de réorganiser son secteur minier en toute souveraineté. Le ministre des Mines a indiqué ce mois-ci à Sotchi avoir rencontré des sociétés russes intéressées par l'exploration et par l'exploitation des ressources naturelles du Niger.
Et malgré cette décision votée en conseil d'administration, rien ne s'est arrêté sur le site de la Somaïr. Tout continue au même rythme qu'avant. C'est en tout cas ce qu'indique Ramar Ilatoufeg de la coordination de la société civile d'Arlit et membre de l'ONG Harry Lindman. Alors comment analyse-t-il les tensions actuelles entre Orano et la Sopamine ? Élément de réponse au micro de Magali Lagrange.
Je pense que le fond de la question, c'était les relations entre le Niger et la France. Alors, à mon avis, qu'est-ce qui a amené cette situation? Nous sommes depuis 50 ans dans une situation d'exploitation d'uranium qui n'est pas au profit du Niger. Aujourd'hui, je pense qu'il y a eu des autorités qui se sont mises en place, qui ont dit qu'il faut que ça profite aux populations du Niger. Le changement du côté de Rano n'a pas voulu s'opérer dans ce sens-là. Et Orano a l'habitude d'avoir tout facilement au Niger. C'est ça le problème.
Qu'est-ce qu'il faudrait, à votre avis, pour que les relations puissent s'apaiser entre les deux?
Les populations en ont marre. Donc il faut que ça change. Orano doit accepter le fait qu'aujourd'hui, ce qui s'est passé avant est terminé. Il faut changer de mentalité.
Est-ce que par le passé, il y a déjà eu une période de tension aussi marquée entre Orano ou Areva avant et l'État du Niger? Ou est-ce que c'est la première fois qu'on voit de telles tensions?
Non, ce n'est pas pour la première fois. C'est au temps du président Tanger dans les années 2006, je crois, 2007, 2008 jusqu'en 2009. Il y a eu ce genre de tension à propos du gisement du Morarène et à propos du renouvellement de conventions. Mais bon, chaque fois qu'il y a ce genre de tension, dans les années passées, à mon avis, j'ai vu que le président français s'est déplacé pour venir voir le président du Niger. J'ai vu Chirac qui est venu au Niger, j'ai vu Sarkozy qui est venu voir au Niger pour régler des problèmes d'Orano. Chaque fois, ils vont jusqu'au plus haut sommet pour résoudre ça. Cette fois-ci, je ne vois personne venir. Même le conseil d'administration qui se tient, il se tient par vidéoconférence.
Est-ce qu'il y a des repreneurs possibles qui se sont manifestés, des entreprises qui ont manifesté leur intérêt pour le site?
En tant que connaisseur du milieu minier, j'estime qu'une société minière qui a exploité de l'uranium pendant 50 ans, je ne crois pas qu'il est facile pour elle de se désengager. Il n'y a pas que la production d'uranium, il y a quand même le passé, le passif, les résidus de traitement, tout ce qui concerne ce qui a causé la dégradation de l'environnement qu'il faut gérer après. On ne peut pas s'en aller comme ça. J'espère que Orano est consciente de ses responsabilités sociales et environnementales. C'est surtout de ça qu'il faut parler. Il y a des responsabilités qui sont au-delà de l'uranium qu'on peut produire et tout ça.
Voilà donc pour l'analyse de Ramar Ilatoufeg de la coordination de la société civile d'Arlit et membre de l'ONG Harry Lindman. Les tensions entre le groupe français Orano et la société d'État nigérienne Sopamine, dossier signé Magali Lagrange. Le Soudan du Sud rejette un rapport, je cite, malveillant sur les entreprises de la famille du président Salva Kiir. The Sentry, une organisation de surveillance basée aux États-Unis et spécialisée dans la traque de l'argent de la corruption, affirme avoir cartographié 126 entreprises de la famille Kiir opérant dans des secteurs clés de l'économie sud-soudanaise, notamment l'exploitation minière, le pétrole, les banques, le commerce, l'aviation, la sécurité privée et la logistique. Le bureau du président sud-soudanais rejette des allégations sans fondement et malveillante et déclare que la constitution du pays n'interdisait à aucun citoyen, y compris à ses proches, de se livrer à des activités commerciales. Fin de citation. Toujours à propos du Soudan du Sud, une fusillade ce jeudi à la résidence du puissant ex-chef des services de renseignement, le général Akol Kurkuk, dans le quartier de Tangpini. Limogé début octobre, l'ancien patron des services de renseignement était depuis en résidence surveillée. Les échanges de feu auraient éclaté alors qu'il devait être transféré vers un lieu de détention, selon des informations pas encore officiellement confirmées par les autorités. Des tirs ont également été entendus dans plusieurs autres endroits de Djouba, la capitale sud soudanaise, jusqu'à 20h30, heure locale. Il est pour l'heure 22h43 en temps universel. Un petit rappel de l'actualité dans le reste du monde.
Afrique Soir sur RFI, Zéphirin Kouadio.
La Cour pénale internationale émet des mandats d'arrêt contre le Premier ministre israélien, son ex-ministre de la Défense et le chef de la branche armée du Hamas pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Décision aussitôt qualifiée d'antisémite par Benjamin Netanyahou qui rejette des accusations mensongères qui le visent. Le conflit en Ukraine a pris un caractère mondial selon le président russe Vladimir Poutine qui n'exclut pas de frapper les pays qui ont fourni à Kiev des armes utilisées récemment contre le territoire de la Russie. Il a aussi confirmé que ses forces ont frappé ce jeudi l'Ukraine avec un nouveau type de missile hypersonique à moyenne portée. Enfin, à la COP29, pays riches et pays en développement sont entrés ce jeudi dans la dernière phase des négociations autour du montant de l'aide financière. L'alliance de 134 pays du Sud réclame aux nations développées au moins 500 milliards de dollars de financement annuel pour le climat d'ici à 2030. Retour à l'actualité africaine et deux jours après la profanation du mausolée de Patrice Emery Lumumba, l'enquête se poursuit en République démocratique du Congo. Hier, les autorités ont fait un point sur l'enquête et ont annoncé de premières arrestations. À Kinshasa, les précisions de Pauline Azidi.
Selon le ministre de l'Intérieur, Jacquemin Chabani, 6 personnes ont été arrêtées dans l'enquête sur le saccage du mausolée de Patrice Lumumba, ici, en plein cœur de Kinshasa. 2 autres personnes sont actuellement encore recherchées par les services de police. Aucun détail n'a pour l'instant fuité sur le profil de ces 8 suspects. Les autorités policières mettent en avant le secret de l'instruction. Selon une source proche du dossier, ces personnes étaient sur les lieux lors de la profanation et elles sont actuellement détenues pour les besoins de l'enquête. De son côté, la police scientifique est encore en train d'analyser les prélèvements faits sur place. Les autorités attendent les résultats dans les prochains jours. Une enquête suivie de près au ministère de la Culture. La ministre joint ce matin assure que le gouvernement souhaite que les coupables soient traduits devant la justice. Les faits sont trop graves, ajoute Yolande Elébé. Lumumba, c'est un monument et la ministre confie être soulagée que la relique soit-elle en sécurité, même si elle insiste, cela n'enlève rien à l'acte commis et à la désacralisation d'un lieu comme celui-ci. Pauline Azidi, Kinshasa, RFI.
L'Afrique du Sud confrontée à une multiplication de cas d'intoxication alimentaire, avec selon les autorités au moins 22 décès, dont de nombreux enfants, et près de 900 incidents enregistrés depuis septembre. Le pays compte encore une victime supplémentaire depuis hier, avec la mort d'un enfant de 5 ans à Soweto. À Johannesburg, le récit de Claire Barchelès.
L'origine de ces intoxications n'a pas encore été officiellement établie, mais les autorités suspectent que la nourriture ait été contaminée par des pesticides habituellement utilisés en agriculture, mais vendus illégalement et employés par de nombreux Sud-Africains pour combattre la présence de rats. Des tests ont été menés dans le quartier de Naledi, où 6 enfants sont morts le mois dernier, et des traces de ces pesticides ont été retrouvées dans 3 spaz à shop, ces petites boutiques de proximité, surtout présentes dans les townships. Les autorités précisent cependant que le problème ne se limite pas à ces spaz à shop et que ces produits chimiques sont présents dans de nombreux points de vente. Les contrôles des magasins qui vendent de la nourriture devraient être renforcés et plusieurs scientifiques rejoindront bientôt l'équipe ministérielle afin de mettre en place des mesures de prévention sur le long terme. Alors que la colère monte dans les zones où des enfants sont décédés, avec des tensions xénophobes autour de magasins tenus par des étrangers, le gouvernement a mis en garde la population contre la tentation de se faire justice soi-même. Claire Barjolès, Johannesburg, RFI.
Les forêts tropicales du bassin du Congo, région considérée comme le deuxième poumon de la planète après l'Amazonie, diminue de 1 à 5% par an en raison de l'exploitation forestière et minière illégale, selon une enquête du Centre d'études stratégiques pour l'Afrique. Alors que 30% de la couverture forestière régionale a disparu depuis 2001, cette dégradation menace les moyens de subsistance de millions de personnes dépendant des ressources de ces forêts et pèse sur son rôle régulateur dans le cycle des pluies de l'Afrique et le processus de séquestration du carbone, indique ce rapport publié ce mois-ci. Au Tchad, à seulement 26 ans, le capitaine des SAO, Marius Mwandimaldi, a décidé de ne plus jouer en sélection nationale de football. L'attaquant de Samsun Spor en Turquie l'a annoncé sur les réseaux sociaux, une décision qui intervient juste après la non-qualification des SAO à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations de football. Le Tchad qui visait la toute première qualification de son histoire à la CAN. Anne Djamena, les précisions de Nesta Yamgoto.
Il est temps de tourner la page, écrit Marius Mwandimaldi sur son compte Facebook. Mon rêve, c'était de jouer la CAN avec mon pays, poursuit le capitaine de SAO. Mais j'ai pas pu l'aider comme je l'aurais voulu. Peut-être, ajoute le natif de Doba dans le sud du Tchad. Je continuerai ma carrière en club. Fin des citations. En 6 matchs, le SAO a enregistré 3 nuls et 3 défaites. Un bilan jugé décevant tant par les médias médias locaux que par les internautes. Mais plus que tout, les critiques sur les réseaux sociaux ciblent depuis plusieurs jours Marius Mwandil Madi. Il avait été désigné capitaine par le sélectionneur national Kevin Ikes pour mener le Tchad dans ses éliminatoires. Au final, il n'a pas marqué de but durant cette campagne et son pénalty raté contre la Zambie en octobre n'a fait que intensifier le reproche à son égard. Le rêve d'une qualification historique pour la CAN s'est envolé. Et vu le contexte, Marius Mwandil Madi préfère s'arrêter là avec la sélection. Nestayam Goto, N'Djamena, RFI.
International depuis 5 ans, Marius Mwandil Madi n'aura inscrit qu'un seul but en 22 sélections, malgré son statut d'attaquant. À l'écoute de Radio France Internationale, il est 22h50 en temps universel. Et retour en force de la Tunisie sur le marché du textile professionnel. En déroute depuis quelques années, le secteur est de nouveau en croissance grâce notamment à une montée en gamme et à sa proximité géographique avec l'Europe. Reportage Alexis Bédu.
Ça c'est pour la police anglaise, ça c'est pour la garde nationale espagnole. Nous fournissons aussi la police en Allemagne et j'espère qu'on aura l'occasion d'attaquer un peu le marché français.
Conquérant à Mormlika, il est directeur de 4 usines de production de vêtements de travail et de protection vers Nabeul sur la côte est du pays. La concurrence chinoise, plus compétitive au niveau des prix, a longtemps sapé les exportations tunisiennes, mais la proximité géographique de la Tunisie avec l'Union européenne a permis de renverser la tendance. Les clients veulent désormais un approvisionnement proche et efficace.
Pas mal de fournisseurs asiatiques, principalement pour les tenues de lutte contre le feu, ramènent des matières premières, des tissus européens, font la confection et renvoient. Donc, alors que chez nous, s'il y a moins de stock, moins de pression sur la liquidité, plus de réactivité, proximité même pour l'assistance technique, tout ça, c'est des atouts qu'on a su mettre en valeur et nous adapter au contexte actuel.
Les certifications environnementales sont désormais une condition sine qua non pour exporter en Europe. Les professionnels tunisiens se sont donc mis à niveau, ils sont montés en gamme.
Nous avons aussi cette innovation, ce jean par exemple, que vous voyez là, est un jean 100% imprimé. Donc c'est un jean qui consomme 98% moins d'eau qu'un jean classique.
Tarek Benajali est PDG du groupe Workman et vice-président de la Fédération tunisienne du textile et de l'habillement.
On a eu la possibilité de conquérir de nouveaux marchés, d'avoir de nouveaux clients et surtout d'aller vers le premium, vers une qualité textile technique. Donc ce n'est plus le basique, le pantalon 4 poches que personne maintenant n'ose porter, sinon les boîtes d'intérim et encore. Donc là on se rapproche plutôt vers le fashion, tout ce qui est stylé. Et ça devient plutôt du prêt-à-porter pour le travail, ce n'est plus du vêtement de travail.
Le prêt-à-porter au travail tunisien qui séduit aussi en Afrique, les contrats affluent, assure Tarek Benajali.
Nous, on vient de signer avec le gouvernement libyen, par exemple, pour habiller les 10 entreprises pétrolières étatiques libyennes, par exemple. On travaille aussi au Cameroun avec les mines de diamants et tout ça, mais je sais aussi qu'il y a pas mal de confrères qui travaillent. Et ils viennent même de certifier des combinaisons pour le nucléaire, par exemple.
Un secteur en croissance qui lorgne également vers la Russie, même si la Chine et le Bangladesh restent les premiers fournisseurs de l'Union européenne.
Un reportage signé Alexis Bédu, il est 23h53 à Tunis et à Paris. Et c'est l'heure de retrouver l'ambianceur d'Afrique Soir au rendez-vous. Rendez-vous auquel, quelle que soit l'actualité. Vous avez reconnu donc Hervé Mandina, alias DJ Facemaker. Bonsoir Hervé.
Bonsoir Zéphirin, le retour du Jedi.
En tout cas, je suis ravi de vous retrouver pour votre dernier rendez-vous de la semaine. On va commencer avec le rappeur togolais Ethan Blex et sa chanson Papa Parfait. Il s'agit de moi là.
Oui, et pour le coup, Ethan Blex se renouvelle et surprend tout le monde, lui qui nous avait habitué à des textes de rap assez durs. Et dans le morceau Papa Parfait, Ethan Blex s'adresse à son créateur avec l'aide d'un chœur afro-gospel tout de même sur le refrain, ce qui lui donne une dimension plus continentale et grand public. Allez, on écoute Papa Parfait. Mama, she's a
Vous voulez que je vous donne mon avis, Hervé ?
Oui, je veux bien.
Bah écoutez, hein, j'aime beaucoup Ethan Blex et son titre Papa Parfait, ça me parle.
Voilà.
Allez, on enchaîne avec le rappeur gabonais ADB qui réalise, lui, une année 2024 record.
Oui, le rappeur a enchaîné avec une série de 5 titres quasiment à la suite cette année et le public semble être enfin au rendez-vous. De bon augure pour le talentueux ADB qui a fait appel à ses acolytes Troy et Jay pour écrire le morceau Mangamba, et ce n'est pas la première fois que ces artistes-là se retrouvent sur un même morceau. Le style, c'est l'ancham. Et sa popularité est en train de se répandre de là des frontières du Gabon.
N'écoute pas des sacoya, y'a Brain Gang, Lock et Maxon, que des bandits. Faites ce que vous voulez, j'ai vu le sang couler. Dernier cachet en tabaton, faut que t'es sans colo. Chaque
phrase, une punch, je suis dans l'excès. On a encore une énergie différente hein, sur ce morceau du jeune gabonais ADB. À présent, on place à votre traditionnelle séquence rétro du jeudi, Hervé, séquence consacrée au groupe controversé Milli Vanilli et la chanson Girl, You Know It's True.
Oui, les plus jeunes d'entre nous se souviennent sûrement du groupe Milli Vanilli qui a connu une célébrité mondiale à la fin des années 80, puis une déchéance tout aussi mondiale au début des années 90, quand ils ont dû rendre le Grammy Awards, le seul d'ailleurs de leur carrière, suite au scandale qui a révélé que les deux stars Rob et Fab n'étaient pas les voix que l'on entendait sur les disques. Et cette histoire refait surface au cinéma depuis le mois d'août aux États-Unis dans le biopic Girl You Know It's True, mais également à travers de nombreux documentaires. Allez, retour en 1988.
Oui, une chanson qui me rappelle effectivement des souvenirs. Eh bien, c'est l'heure, c'est déjà l'heure hein, de conclure, mon cher DJ Facemaker. Et c'est au jeune original Ekwa, aux côtés de Gaz Mawete de la République démocratique du Congo, que revient cette responsabilité.
Oui, une lourde responsabilité, d'autant plus qu'original Ekwa est un artiste émergent. L'aide de Gaz Mawete est donc bienvenue pour cela. Les deux artistes proposent le morceau Wapi, sorti le 17 novembre dernier. Une chanson de 4 minutes qui évoque l'histoire d'un cœur brisé qui peine à renoncer à l'être aimé. En d'autres termes, original Ekwa exprime sa douleur sur un rythme zouk love, une expression qui ne nous rajeunit pas.
S'achève cette dernière édition d'Afrique Soir réalisée par Jonathan Brédy, rédacteur en chef Esdras Nikoumana, assisté de Simon Buil-Baudin. Il est 23h et bientôt 59 minutes ici à Paris. Dans une toute petite minute, un nouveau journal sur la Radio du Monde.
De voisins.
Diarra Ndiaye attend vos témoignages sur le thème de demain.
Journaliste, directrice de rédaction, chroniqueuse, technicienne, quelles sont les femmes qui font les médias aujourd'hui? Et parmi la nouvelle génération plus digitalisée, comment faire entendre sa voix?
Contactez-nous sur notre numéro WhatsApp 33 7 64 45 51 41.
8 milliards de voisins.
Du lundi au vendredi à 10h10 TU sur RFI.
Priorité santé.
Caroline Paré vous invite à poser vos questions sur le thème de demain.
Dans notre émission Questions de femmes, nous parlons de la relation mère-fille. Complicité, rivalité, bienveillance, mais aussi comment améliorer ce lien en cas de conflit.
Contactez-nous sur WhatsApp au 33 7 61 18 46 41 ou à priorité.santé@rfi.fr.
Priorité santé avec Sono Assurance.
Du lundi au vendredi à partir de 9h10 TU sur RFI.